Pour que tout soit parfaitement clair, pour nos auditeurs, je crois qu'il faut rappeler quelque chose d'essentiel. Il y a un texte qui a une fortune prodigieuse, aussi bien en islam que dans la philosophie scolastique. C'est ce texte qui a pour titre « Théologie d'Aristote ». C'est une théologie, mais elle n'est pas d'Aristote. En fait, c'est une compilation des trois dernières Énéades de Plotin. Il serait très compliqué de vous expliquer comment cette compilation a été faite. Enfin, elle est passée en arabe grâce à l'intermédiaire des traducteurs qui furent presque toujours des chrétiens syriaques au IXe siècle. Et c'est ce texte qui a eu cette fortune prodigieuse dans la méditation des philosophes et mystiques de l'islam. Le fait qu'elle fût attribuée à Aristote a provoqué une magnifique confusion. On avait donc affaire à un Aristote qui était platonicien. Si bien qu'on ne pouvait pas prendre compte Aristote, même les antipéripatéticiens les plus décidés, une position qui fut sans réserve. Dans tous les répertoires que nous avons conservés, particulièrement dans la philosophie iranienne, irano-islamique, il y a l'opposition très nette entre ce qu'on appelle les péripatéticiens, les mashaoun, c'est-à-dire ceux qui philosophent en se promenant, et les ishraqiyoun, qui sont les disciples de Sohrawardi, qu'on appelle plus communément encore les platoniciens de Perse. Si bien que cette opposition, que l'on sentait fort bien entre la philosophie d'inspiration aristotélicienne et la philosophie d'inspiration platonicienne, on en rendait responsable, non pas Aristote lui-même, puisqu'il avait écrit cette théologie, mais des péripatéticiens tardifs, et en particulier les péripatéticiens de l'islam. Mais enfin, un certain nombre s'étaient méfiés. De même aussi, qu'on s'est méfié en Occident, dès le XIIIe siècle, vous pouvez lire des réserves sur la paternité de ce traité, l'attribution qu'on en faisait à Aristote. Sohrawardi lui-même, fondateur donc de cette philosophie orientale, je rappelle l'origine du mot, c'est le mot Eshraq. Eshraq désigne la lumière, l'illumination de l'astre à son lever, son orient. C'est donc délibérément dans la pensée de Sohrawardi, philosophie orientale, mais au sens métaphysique du mot. Ce ne sont pas les orientaux au sens géographique. Pour lui, évidemment, les représentants les plus éminents de la philosophie orientale sont les sages de l'ancienne Perse. Il a voulu ressusciter leur philosophie dans l'Iran islamique. Mais c'était la connaissance orientale qui faisait d'eux des orientaux. Ce n'est pas inversement parce qu'ils étaient orientaux que leur connaissance était automatiquement orientale. Eh bien, c'est chez ces philosophes orientaux, c'est ces Eshraqiyoun, que cette théologie d'Aristote a prospéré. Je crois qu'il n'est pas un seul d'entre eux qui ne la cite à un moment donné au cours de son livre. Et vous savez, le passage le plus éminent, vous le trouverez chez Sohrawardi, c'est le passage où Plotin déclare « Souvent je m'éveille à moi-même en échappant de mon corps, étranger à toute autre chose, dans l'intimité de moi-même, je vois une beauté aussi merveilleuse que possible. » Il y a bien des variantes, mais toujours, malgré les variantes, vous reconnaissez l'identité du texte, et vous pouvez vous y référer d'ailleurs, les auteurs ne manquent pas de toujours citer expressément la théologia d'Aristotelis. Sohrawardi donc la rapporte, c'est en méfiant, pour lui c'est Platon. Et ce récit d'extase n'est pas un récit d'extase d'Aristote, il le met délibérément sur le compte de Platon. Je crois que, à leur tour, beaucoup d'entre eux l'ont également senti, mais une chose très intéressante, c'est qu'on considère en Occident que la fortune de cette théologie d'Aristote s'est arrêtée, mon Dieu, à la fin du Moyen-Âge. Elle a continué encore très longtemps en Iran. L'Iran a été, n'oublions pas, le refuge de la philosophie dans le monde islamique. Et nous avons encore, au XVIIe siècle, un éminent philosophe de l'école d'Ispahan, qui est Qazi Saïd Koumi, qui a consacré un énorme volume à commenter cette théologie d'Aristote. Nous avons donc là vraiment le livre de base de ce que nous pouvons appeler le platonisme iranien, un platonisme fortement coloré depuis le début par l'influence de Sohrawardi, qui avait voulu ressusciter la philosophie de la lumière et des ténèbres, les sages de l'ancienne Perse. Nous avons une sorte de platonisme, néo-platonisme zoroastrien. C'est ce qui caractérise toute cette philosophie de l'Iran islamique, de l'islam oriental. Vous avez relevé justement avec beaucoup d'à-propos, l'importance de ce texte dans une des confessions extatiques de Mir Damad. Mir Damad, c'est un grand maître à penser de l'école d'Ispahan, de toute la philosophie contemporaine de la Renaissance safavide depuis le XVIe siècle, en influence d'ailleurs dure encore jusqu'à nos jours, toute une philosophie traditionnelle parfaitement vivante. Et comme vous avez vu, j'étais très sensible à cette différence de tonalité chez deux grandes personnalités mystiques, réagissant de façon très différente à la méditation de ce texte, chez Sohavardi, chez Kholeshra. C'est vraiment une tonalité qui s'accorde avec celle de l'extase plotinienne. C'est une exultation de joie, une pénétration triomphale dans les cieux, dans les sphères de lumière. Oh, le mystique redescend, nostalgique, espérant pouvoir renouveler prochainement cette expérience merveilleuse. Ce qui est frappant chez Mir Damad, c'est au contraire une aura de tristesse très profonde. Il emploie cette magnifique expression, cette immense clameur occulte. Dans mon âme, vous voyez, c'est fort important. Il ne faut pas se représenter cette philosophie traditionnelle comme quelque chose de monolithique, d'uniforme, de monotone. Chacun d'eux réagit avec toute sa personnalité, avec toute sa vocation propre, et à une diversité prodigieuse. Et soyez sûr que nous avons beaucoup à en apprendre encore dans des masses de textes qui sont restés inédits. Je me suis employé toute ma vie, et je crois que j'ai certains de mes jeunes collègues, notamment en Iran, qui sont conscients de cette tâche. Voyez-vous, en très gros, je crois que c'est ce qu'on peut commencer par dire autour de ce texte de Plotin qui a retenu votre attention. Je prends un autre passage de cette théologie d'Aristote. Je crois le point de départ de quelque chose d'essentiel. Pour comprendre ce que veulent dire nos philosophes mystiques, qui ne séparent jamais d'ailleurs la philosophie d'expérience mystique, l'une sans l'autre, ou c'est une perte de temps, ou c'est pas la campagne, c'est que les entités spirituelles sont de plusieurs sortes, et qu'il y en a qui ont leur demeure dans le ciel situé au-dessus du ciel étoilé. Et quelque chose est très important. Voyez, nous lisons dans la théologie d'Aristote, nous disons que derrière ce monde, il y a un ciel, une terre, une mer, des animaux, des plantes et des hommes célestes. Chaque être qui est dans ce monde-là est céleste. Il n'y a aucune chose terrestre. Ces quelques lignes peuvent nous servir de leitmotiv pour introduire un aspect essentiel de la métaphysique de l'homme mystique, quelque chose que l'on peut grouper autour du thème, disons, de physiologie du corps subtil. Pour eux, l'homme se présente comme une triade composée de trois éléments, l'homme corporel, l'homme psychique, l'homme intellectif ou l'homme spirituel. C'est une intuition qui d'ailleurs est commune à toute la gnose traditionnelle. Mais il y a tout de même leur œuvre propre, et ça commence avec Sohavardi, a été d'insister sur cet intermonde, intermonde situé qui fait le lien entre le monde sensible, le monde que perçoivent donc nos cinq sens, et ce monde intellectif auquel nous accédons de quelques moments privilégiés par ce que nos mystiques appellent la fine pointe de l'âme. Ce monde intermédiaire est celui qu'on désigne en arabe comme Alamul Mathal, littéralement, c'est, je le traduis en latin, mundus imaginalis, parce qu'il nous faut un terme technique, et surtout qu'au long des années, je me suis appliqué toujours de plus en plus à éviter toute confusion entre l'imaginaire et l'imaginal. Vous voyez, ce qui a, je crois, affaibli beaucoup notre spéculation philosophique en Occident depuis trois siècles, c'est que nous avons perdu la trace, le contact de ce monde, de cet intermonde, de ce monde imaginal. Et nous en avons été réduits à identifier tout ce qui ne tombe pas sous nos sens ou tout ce sur quoi ne peuvent pas légiférer les lois de l'entendement. Nous appelons ça l'imaginaire, nous l'appelons le fantastique, autant dire c'est l'irréel. Et j'ai relevé il y a déjà bien longtemps une phrase magnifique où Paracelse insiste pour que l'on distingue bien entre ce qui est l'imagination vera, l'imagination vraie et l'imaginaire, la fantaisie, qui est la pierre de touche des fous. Voyez, ce que nous venons de lire, dans ces quelques lignes de la théologie d'Aristote, nous a été préservé en arabe, c'est cette idée que tout notre monde sensible est doublé par un monde qui est affranchi de la matière, matérielle, disons, de la matière pondérable, mais non pas de l'étendue. Et quand on pénètre dans ce monde, ça ne veut pas tout dire que l'on perd toute la richesse du monde sensible, au contraire qu'on la retrouve, mais à l'état éminent. Le monde est affranchi de toutes les lois, de toutes les servitudes du monde de la matière qui tombe sous les sens, mais en même temps, il sert d'intermédiaire avec le monde intelligible. Il est le lieu, donc, des projections du monde supérieur, et ce monde a le privilège de nous réserver ce qu'on peut appeler les images métaphysiques, les images intellectives. Et c'est dans cet intermonde que se produisent les visions des mystiques, les visions des prophètes, tous les événements d'eschatologie, tous les événements, par exemple, de la résurrection. C'est un monde, donc, qui comporte un paradis et un enfer. Et c'est pourquoi il ne faut pas vous étonner. Si ceux qui y pénètrent peuvent avoir une vision paradisiaque, ils peuvent avoir une vision de l'enfer. Et les deux témoignages de Sora Verdi et de Mir Damad en sont un exemple frappant. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est dans cet intermonde que se joue toute la dramaturgie de l'expérience mystique. Il y a eu une valorisation extraordinaire de l'image que nous ne pouvons plus concevoir en Occident, a priori, parce que nous avons dégradé le sens de l'image, en faisant de l'imaginaire. Elle est complètement déréglée, elle est livrée donc au fantastique, au macabre, au funèbre. Le monde des imaginalistes n'est pas le monde de l'imaginaire des surréalistes. Faisons bien attention, il y a une grande discipline qui règle les visions de ce monde. Sora Verdi disait très justement que si l'on perd la réalité de ce monde-là, il est le premier qui en a vraiment fait l'ontologie, on a assuré la base métaphysique, ce sont toutes ces visions prophétiques et ces événements eschatologiques qui n'ont plus lieu, qui perdent leur lieu. Vous voyez donc pourquoi ? Vous voyez la différence profonde avec les prémices banales, les prémices ordinaires de nos philosophies classiques. Et ce ne sont pas les tentatives actuelles qui contribueront tant soit peu à la restauration de cet intermonde. Au contraire, je crois qu'elles ne font qu'accentuer le voyage aux enfers qui nous est ménagé dans cet intermonde. Alors, un des grands maîtres, cette métaphysique du monde imaginal, à côté de Sora Verdi, c'est Ibn Arabi. Et c'est pourquoi, il y a déjà une quinzaine d'années, il va y avoir une seconde édition d'ailleurs, consacrée tout un livre à ce thème qui a pour titre « L'imagination créatrice dans le soufisme d'Ibn Arabi ». C'est un livre qu'il faut absolument lire du point de vue que nous sommes en train de traiter maintenant. Il y a des récits extraordinaires d'Ibn Arabi, de cette pénétration dans le monde imaginal, un monde parfaitement réel, plus réel même que notre monde sensible. Et c'est là, c'est dans ce monde qu'est introduit le mystique au cours de ses visions. C'est le monde dans lequel nous pénétrons, dans un pauvre petit rez-de-chaussée, même je dirais dans le sous-sol, hein, au cours de nos songes, de nos plus beaux rêves. Mais comme le dit Ibn Arabi, c'est le monde auquel s'éveille celui qui meurt. Et c'est par justement uniquement ce monde que nous pouvons comprendre et concevoir les récits, les informations concernant la vie posthume de l'être humain. Et si nous en sommes dépourvus, tout cela n'a plus de sens, tout cela n'est plus qu'un conte, du mauvais roman. Voyez donc l'importance de tout cela. C'est là aussi, c'est dans ce monde que se fait l'apparition, la concrétisation de la figure divine. Jamais l'homme, un être humain, ne peut avoir de contact, d'entretien, de face à face avec le Dieu en soi, que ce soit Ein Sof, des kabbalistes, non ? C'est la vérité permanente, vous voyez. Je pourrais vous faire saisir ça d'un contraste, c'est ce contraste qui domine tout mon livre sur l'Ibn Arabi. La réponse faite à Moïse, aussi bien dans la Bible que dans le Coran. Les textes se retrouvent avec une identité extraordinaire. Moïse demandant à contempler la vision de la face divine, et cette réponse qui lui est « Tu ne me verras pas. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. » À côté de cela, nous avons un hadith extraordinaire, qu'on appelle le hadith de la vision, hadith au Roya, où le prophète raconte « J'ai vu mon Dieu sous la plus belle des formes. La description est somptueuse, enchanteresse, et elle a été méditée de siècle en siècle. » Or, tous les apports métaphysiques et mystiques, tout ce qu'on a pu dire autour de cette vision est extraordinaire. Mais vous voyez le contraste. Et là, je crois, peut-être dans ce contraste, nous saisissons même le secret, le paradoxe de l'expérience mystique. Le Coran, le livre dont le prophète est le messager, qui lui est dicté par l'ange, enregistre la réponse à Moïse, « Tu ne me verras pas ». Et cependant, nous avons cette affirmation du prophète, « J'ai vu mon Dieu sous la plus belle des formes ». Celui qui a compris le contraste, le paradoxe, et qui comprend où se glisse la solution du paradoxe, je crois que celui-là a tout compris. Alors, de quoi s'agit-il? Ça implique donc la nécessité d'une théophanie. Ça implique la nécessité d'une manifestation divine qui n'est jamais une incarnation, jamais un ensevelissement dans l'histoire. Cette historicité que poursuit avec tant d'acharnement nos pauvres penseurs de nos jours, c'est toujours quelque chose qui se passe dans l'intermonde. Mais dans cette théophanie, dans cette visibilité paradoxale, s'institue justement cette relation inouïe entre un Seigneur, un Dieu personnel, et celui dont il est Dieu. C'est pour celui-là que Dieu se manifeste sous telle ou telle forme. Et la divinité ne peut se manifester que sous une forme qui corresponde à l'aptitude, à la préparation de celui à qui elle se manifeste. Vous voyez, il y a un lien, une solidarité, une interdépendance extraordinaire entre le Dieu manifesté dans la croyance ou dans l'extase et celui à qui il se manifeste. Soit, il me rappelle bien là-dessus des pages magnifiques. Et c'est pourquoi ce sont des pages qui sont en consonance extraordinaire avec les plus beaux distiques d'un mystique que vous connaissez certainement, qui est Angelus Silesius. Angelus Silesius disant « Dieu ne peut vivre sans moi un instant. Je sais que si je meurs, il faut qu'il rende l'âme. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne concerne pas le Dieu en soi, la divinité, le Seigneur des Seigneurs, le mystère des mystères. Nous ne pouvons pas atteindre le secret. Ça concerne ce face-à-face, cette relation personnelle, l'interdépendance entre le Dieu qui se manifeste à moi parce qu'il veut se manifester à moi en raison de l'aptitude ou de la capacité que j'ai acquise. C'est une théophanie qui correspond à mon être prééternel. Et c'est ce qui fait, voyez-vous, que je suis investi de la responsabilité de cette théophanie, de cette manifestation. Il y a un lien d'interdépendance entre les deux. Et si nos contemporains pressentaient un peu le mystère et le secret que nos grands théosophes mystiques en Bible arabe ont voulu exprimer, tout l'aspect des problèmes change. Nous parlons toujours de la mort de Dieu, sans nous aviser que ce n'est pas la mort de l'homme qui va s'en suivre, mais que c'est la mort de l'homme qui précède. Voyez-vous, il y a un tel lien d'interdépendance, et je crois que c'est le fondement, j'ai insisté bien souvent là-dessus, d'une chevalerie mystique. L'homme est responsable de son Dieu et de la mort de son Dieu. L'homme est un partenaire de combat de son Dieu qui combat avec lui, pour lequel il combat, et chacun a besoin du service de l'autre. C'est le sens magnifique de la prière. Vous direz, ben alors à quoi bon la prière? Mais c'est justement, parce qu'il en est ainsi, que la prière est à la fois une prière de Dieu et une prière de l'homme. Voyez, je crois que je vous dis là tout l'essentiel sur certains aspects de cette haute mystique sur laquelle j'ai beaucoup écrit, mais je crois qu'il faudra beaucoup de temps pour que ça pénètre dans le minimum de personnes informées et de chercheurs à la quête de ces choses. Je crois que ce que vous évoquez à propos de Platon ne peut pas être isolé, en somme, de toute la destinée du néoplatonisme. Par exemple, chez Souravardi, mais les développements sont tellement proches de Proclus, sans que l'on puisse dire qu'il ait connu tel ou tel texte de Proclus, n'est-ce pas ? Ça nous entraîne très très loin. Et comme vous le savez, il y a entre Platon et Proclus, tous deux néoplatoniciens, il y a tout de même une très grande marge, marge considérable. Ça serait un aspect nouveau que d'envisager ça. J'ai essayé d'ailleurs de le faire récemment, mais ne l'oubliez pas non plus. Ce qui se produit lorsque la pensée plotinienne est organisée et interprétée par un homme comme Proclus, qui restaure toute la théogonie, toute la religion hellénistique de manière géniale, profonde, comme personne ne l'a fait d'autre. Et d'autre part, lorsque le plotinisme pénètre dans le cercle de la pensée abrahamique, il y a quelque chose de commun entre les réactions plotiniennes dans la philosophie juive, chez les kabbalistes, ils ne sont pas des néoplatoniciens, mais enfin, chez qui vous en trouvez des traces. Il y a quelque chose de commun dans les traces également de ce plotinisme chez les penseurs de l'islam. Vous trouvez, penseur et mystique, vous trouvez également, à comparer, je crois, dans le domaine de nos mystiques chrétiens. Mais ça, je dois dire que c'est une recherche comparative qui n'a même pas été encore tentée. C'est un rêve de l'avenir, non seulement un rêve, mais je crois que c'est une tâche qui s'imposera à nous si nous voulons retrouver vraiment les sources, les voies de notre spiritualité et faire face à tous les problèmes qui nous accablent aujourd'hui.